Will your summer sound like this?
My train is delayed.
Or this?
Evening, everybody.
This.
Assistant required.
Or this. This.
Or this!
Make it a summer of Amex and do more with American Express Experiences. With exclusive pre-sale tickets for Somerset House Summer Series, Wimbledon and British Summertime in Hyde Park. Search why Amex. Subject to availability, terms apply.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'ai annoncé aussi l'arrivée, faut pas que je me gourde, Tata
Roussanou.
Rati, il a tué la baraque et puis Marquitos.
Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, After est là jusqu'à minuit, comme tous les soirs, bien sûr, nous sommes en direct sur RMC à la radio, en direct sur RMC Sport News, à la télé, dans l'After, l'émission qui pense tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Enfin, qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Ce soir, Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Jérôme Bretagne est là. Jérôme, bonsoir. Will Sagnol est là, comme tous les jeudis. Salut Will.
Salut Gilbert.
Et Julien Cazard sera avec nous tout à l'heure à 23h. Voilà, ça c'est le casting de base hein, du jeudi. Mais ce soir, on a plein d'événements.
À Vermel, du coup, il ne sera pas là ce soir.
Ah si, il sera là tout à l'heure.
Il y a réunion de crise avec Florentino Pérez, savoir s'il garde Zidane ou pas.
Oui, parce que le Real vient de perdre.
Là t'as un objectif en moins, un titre en moins, c'est un gros coup dur.
Alors, en plus, en réunion, là, il doit décider. Là, c'est lui qui statue pour le sort de Zidane. Ouais,
le Real vient de perdre en Coupe du Roi contre le Real Sociedad 4-3.
C'est pas du tout dans ses plans parce que là il était venu
à Madrid,
du sucre sur Barcelone et bam il arrive une tuile au Real.
Bah, le Barça joue face à Bilbao là depuis une minute, hein, il y a 0-0 évidemment.
Le Barça se fasse taper.
Oh, oui, là il dit allez bah, sauvez-moi ma soirée.
Alors plusieurs événements ce soir dans l'after. D'abord un débat tactique sur la Ligue 1 dans quelques secondes. Notre championnat adoré a-t-il encore un style? Tout ça suite à ce que vous avez lancé hier messieurs dans l'after, hein, à savoir est-ce que finalement est-ce qu'on est encore capable de définir une tactique en Ligue 1 parmi nos 20 clubs. On va en parler ensemble et évidemment vous attend au 32-16 pour cela. Évidemment Willy a forcément un avis. Willy a un avis surtout.
En fait on l'a fait, c'est spécial
on
Willy.
On l'a fait
quoi.
Pour Willy parce
c'est
que
vraiment spécial
lui,
Willy pour qu'il parle pendant une heure parce que nous on est habitués à parler de ça. Donc c'est vraiment Willy, ancien entraîneur de Ligue 1, ne l'oublions pas, il a dirigé en Ligue 1
là, donc
mais aussi en Allemagne, donc c'est, tu vois, c'est, on attend le regard distancié, le recul, la
hauteur. Avec tout ce qui nous met sur les coachs aujourd'hui en place, au moins il va se livrer quoi.
Tout ce que je me dis. Willy, on a fait tout pour toi, c'est pour toi.
C'est
une autoroute.
Un autre truc peut-être pour toi à 21h40.
Il y a des accidents sur les autoroutes, attention.
On va parler de l'évolution que les Anglais veulent appliquer au VAR, notamment sur les hors-jeux limites, là, les hors-jeux, vous savez, du talon, du bout du genou et tout. Les Anglais ont une idée, on va en débattre tout à l'heure ensemble, évidemment. Et puis à 22h, on parlera toujours Angleterre, mais là, on parlera Brexit. Et oui, parce que le Brexit va avoir des conséquences sans doute sur le foot anglais en termes de mercato, de gestion. On en parlera à 22h tout à l'heure avec.
On va pouvoir appliquer des joueurs, tu crois?
Bah, en tout cas, ce sera peut-être moins facile pour certains d'y aller.
En tout cas, ouais. En tout cas, il y aura moins qui vont y aller. Ouais. Ouais,
exactement. Donc, pour recruter, pour eux, risque d'être un peu plus compliqué. Mmh. Tu vois, l'espèce de joueur moyen que tu prenais 25 millions, que tout le monde était content là.
C'est nos clubs qui vont pas être contents parce qu'ils vont plus pouvoir refourguer leur mauvaise marchandise.
On en parle tout à l'heure.
C'est ça le vrai souci.
Et puis, autre événement dans l'after tout à l'heure à 23h, le retour de Bielsa. Mais il est de retour dans l'after à l'occasion de la sortie d'un livre qui explique les rapports amoureux entre le public marseillais et Bielsa en retraçant la saison.
Pourquoi ça a autant marché?
Et voilà.
Pourquoi ça a fait coup de foudre?
Voilà. Qu'est-ce qui fait que ça a marché entre Bielsa et Marseille alors que ça n'a pas marché entre Thierry Goudet et Laval, par exemple, à l'époque?
Ah, ça a un peu marché quand même.
Ah, c'est un peu marché. Mauvais exemple.
Ça a pris un peu. Non.
Bon bref, ce sera tout à l'heure à 23h, supporters Marseille, on vous attend bien sûr pour témoigner avec nous. Julien Cazard, 23h30 sa chronique, le quiz 23h40. Et puis on a du basket ce soir, un match féminin. France-Australie, c'est le tournoi de qualification olympique. Arnaud Valadon, bonsoir.
Bonsoir messieurs, trois matchs et il faut terminer dans les trois premières de cette poule de quatre. Donc ça devrait le faire pour l'équipe de France qui affronte l'Australie, l'équipe la plus redoutable, deuxième nation mondiale. 27 partout alors que les Bleus menaient encore de 10 points il y a quelques minutes et 4 minutes 20 avant la fin de cette première mi-temps.
Et puis vous le savez, encore ce soir vous pouvez gagner vos places pour Dortmund PSG grâce à l'After. C'est très simple, vous envoyez foot par SMS au 732-16, foot par SMS au 732-16 dès maintenant, et vous serez avec nous. Celui qui est tiré au sort, le gagnant potentiel qui sera tiré au sort, sera avec toi en fin d'émission. S'il choisit la bonne place, il pourra aller à Dortmund. Hier, notre gagnant, notre candidat a perdu, mais avant-hier on l'a envoyé à Dortmund quand même, donc ce soir on verra.
Donc on allez-y, on va passer en tribune déjà.
Vous envoyez foot par SMS au 732-16. C'est parti. La Ligue 1 a-t-elle, mon cher Willy, encore un style? Et ne me réponds pas tout de suite, mais a-t-elle déjà eu un style? Parlons déjà de ce qui se passe maintenant. Quand tu regardes les matchs, ceux de cette semaine, est-ce que tu vois des trucs tactiques intéressants? Est-ce qu'il y a un style Ligue 1?
Non, il n'y a pas de style Ligue 1. Je répondrai, je dirais pas tout de suite est-ce qu'on en a déjà eu un, mais il n'y a pas de style Ligue 1. Tout simplement parce que les effectifs des clubs sont très comment expliquer, t'as tout un tas de joueurs différents. Il faut voir plein de choses. Il faut voir la formation, l'évolution de la formation qu'il y a eu en France, parce que les clubs français d'abord avant tout essayent de former. Par exemple, aujourd'hui, tu pourrais dire la Ligue 1, c'est un championnat où il te faut une grosse densité athlétique, notamment au milieu de terrain. C'est un des premiers cas. D'ailleurs, tous les étrangers qui viennent, même les très bons joueurs qui viennent d'autres championnats, Neymar avait dit ça, il y en a d'autres qui ont dit ça. C'est vrai que la France est un championnat très physique, très athlétique. On dit un peu comme on veut, il y a beaucoup de duels. Il y en a beaucoup plus que dans plein d'autres championnats.
Ça fait partie d'un style.
Oui. Pour donner un style, il faut avoir du temps. Pour donner un style, on n'impulse pas un style en un mois, deux mois, trois mois, ça prend beaucoup plus de temps. Pour avoir un style, il faut avoir un effectif avec lequel tu vas travailler et que tu vas l'emmener là où tu veux l'emmener. Le souci de beaucoup de clubs français, et on va dire de 90 voire 95% des clubs français, si tu es entraîneur, tu dis ok, j'ai telle équipe, donc je pense que je vais pouvoir jouer de manière, parler très rapide, on va dire offensive, en m'appuyant sur tel joueur, parce que ça va être mon homme de base. Mais comme on dit, dans 95% des cas, l'entraîneur ne sait jamais si son joueur de base offensif sera encore là à la fin du mercato.
Donc tu veux dire que travailler sur la longueur, comme tu le décrivais, c'est quasiment impossible en Ligue 1 en fait.
C'est difficile. Parce que tes effectifs changent beaucoup, t'es obligé, parce que les clubs français pour vivre sont obligés de vendre. Donc tu ne vas pas pouvoir dire ok, pendant deux ans, trois ans, on va pouvoir travailler d'une certaine façon. Parce que si t'as plus les joueurs pour travailler
aussi,
comme ça
bouge quand même.
Pardon ?
Dans les autres championnats aussi, ça bouge.
Pas tant que ça. Regarde en Allemagne, t'as moins de mouvement, notamment sur les clubs, on va dire, qui représentent la masse, t'as moins de mouvement. Et surtout, c'est pas toujours leurs stars qui partent. Les clubs allemands arrivent encore à garder leurs joueurs importants. En France, on n'arrive pas à garder les joueurs importants. PSG, Lyon.
Je te coupe là, à ce stade-là. Donc, définir une tactique, une stratégie de jeu sur la longueur, c'est la faire en fonction de ses bons joueurs.
Non, mais une stratégie, c'est toi, tu vas définir une stratégie, c'est tes joueurs qui la mettent en place. Et pour la mettre en place, tu vas t'appuyer sur des cadres, et notamment si tu veux. Le plus dur à faire dans le football, c'est mettre en place les stratégies offensives. Donc forcément, il va falloir que le jeu repose sur un joueur, voire deux. Tes meilleurs joueurs, tu vas pas faire reposer ton jeu sur ton joueur le plus mauvais. Mais tes meilleurs joueurs sont toujours susceptibles de partir, donc c'est dur. Une fois, si tu dis, allez, on a l'effectif pour faire un 4-4-2 parce que j'ai deux attaquants, y en a un qui est un peu plus pivot, l'autre qui tourne bien autour, en plus j'ai un ailier gauche qui est pas mal, qui va pouvoir m'amener du débordement, du centre. Tu vas travailler pendant des semaines et des semaines comme ça, et puis tiens, au 20 août, on te vend un des deux attaquants et on te vend ton ailier gauche. Et t'as pas du tout les mêmes profils derrière. Donc, c'est-à-dire que la façon dont t'as travaillé pendant cette semaine, t'es mort, t'es obligé de te réadapter. En France, on est beaucoup dans l'adaptation, dans la réadaptation. Voilà, on n'est pas forcément dans la vision à moyen voire long terme, on est vraiment dans l'adaptation.
Alors, à cette première question un peu générique, vous répondez quoi, Daniel et Jérôme? La Ligue 1 a-t-elle encore un style? Après, on parlera de des conséquences, des causes, tout ça. Hein, mais
écoute,
considération générale pour démarrer.
Non, mais ça s'entend ce que dit Willy. On le constate. Déjà, les clubs ont. On laisse pas assez de temps aux entraîneurs dans l'obligation de résultats immédiats, donc et on sait très bien pour avoir partagé un vestiaire. Alors moi j'ai pas été coach, mais j'ai été joueur. Donc quand l'entraîneur veut mettre en place quelque chose, il peut pas le mettre en place comme ça en claquant des doigts sur une période de 2-3 mois. C'est pas possible, quoi. Tu es obligé de mettre un style en place, de le répéter, des enchaînements. Alors Willy parlait des enchaînements offensifs, du style offensif des équipes, mais aussi défensivement, comment t'apprends à défendre ensemble. Il y a des coachs qui ont vraiment des principes de jeu bien précis défensivement et offensivement. Donc je pense que ça, déjà, les coachs pour les défendre de ce côté-là n'ont pas le temps parce qu'ils ont la pression des dirigeants et que quand ils veulent mettre un style, même si les résultats sont pas bons dans un premier temps, ils sont dehors. Donc déjà, ils ont l'épée, le couteau sous la gorge. Là. Je vais pas dire en travers de la gorge parce qu'ils sont morts, mais ils l'ont déjà là. Voilà, il y a des hésitations de ce côté-là. Donc, ils vont je dirais ce qui marche le mieux, c'est ils font en fonction de l'équipe et de match en match, t'as des styles qui sont complètement différents. C'est pour ça. Là, je vais te prendre l'exemple de Rennes, par exemple. Rennes qui a des bons résultats cette année. L'année dernière aussi, c'était cohérent. Rennes a changé une grande partie de l'effectif en début de saison. On l'a souvent mis en avant. Ça a failli coûter la place à Julien Stéphan aussi, parce qu'il n'arrivait pas à remobiliser son groupe et tout ça. Et lui, je pense qu'il s'est focalisé sur la réaction de son groupe psychologiquement, comment je les amène, sur de la motivation, sur de l'excitation. On ne peut pas accepter cette situation-là. C'était plus un discours où il essaye de rentrer dans les têtes des joueurs pour les faire réagir. Et puis après, bah, le style a du mal à repartir parce qu'entre Rennes de l'année dernière et le Rennes d'aujourd'hui, franchement, si tu me dis il y a un truc qui ressort de la patte Julien Stéphan, j'ai du mal. Je pense qu'il s'est réadapté à son groupe et avec quelque chose de différent. Et pour moi aussi, il y a la preuve que certains entraîneurs, et c'est pas donné à tout le monde, et ça Willy peut pas me contredire, c'est pas donné à tout le monde d'avoir un vrai style. L'entraîneur qui arrive avec des grandes idées et qui veut jouer par exemple en 4-4-2 avec deux milieux de terrain, du moins des actions où les deux points forts sont les deux côtés, les latéraux avec les joueurs plus hauts, des dédoublements, des centres avec les deux attaquants qui fonctionnent. Je pense que c'est pas ce circuit-là est pas donné aussi à tout le monde pour parler juste spécifiquement de cette tactique-là. Et t'as des entraîneurs malheureusement même s'ils veulent mettre ça en place, ils arrivent pas à l'intégrer dans les séances d'entraînement et la prise de conscience des joueurs, elle existe pas, la progression des joueurs. Et je pense que ça vient aussi par le fait qu'on n'a pas des grands techniciens en France. C'est tout.
T'as Guardiola qui le dit souvent, régulièrement. Il dit, de toute façon, tu n'as pas de grands entraîneurs sans grands joueurs.
Ouais.
C'est-à-dire que si, comme tu parles, tu dis des idées d'avoir le 4-4-2, ouais. Je pense que tous ceux qui suivent des formations, dès que tu entraînes à un moment donné, à un certain niveau, le 4-4-2, c'est un système que tu maîtrises très bien et que tu es en capacité de transmettre à tes joueurs.
Non, mais Willy, je parlais du 4-4-2, j'aurais pu dire un autre.
Oui, non, mais c'est pour rebondir sur ce que tu disais. Mais à un moment donné, tu es confronté à une chose. Est-ce que les joueurs ont la capacité de l'intégrer? Parce alors, que ça c'est Daniel, c'est aussi un autre débat.
Ah ben oui.
À cette première question, comme je l'ai dit générique, suite au match très moyen qu'on a eu cette semaine, qu'est-ce que tu réponds?
Aujourd'hui, évidemment que la Ligue 1 a un style. Le style de la Ligue 1, c'est un jeu défensif, un bloc bas, des duels à répétition, tout le monde le sait, et une formation basée d'abord sur le côté athlétique. Donc c'est des choses qui, a priori d'un point de vue du jeu comme on aime le regarder, n'est pas très séduisant parce que ça manque de joueurs tactiques. Et je vais pas revenir sur ce qu'on dit Willy et Jérôme. Moi, ce qui m'intéresse plus dans cette question là c'est à la limite l'aspect historique. On peut essayer de raconter peut-être, je m'attendais pas trop à faire ça, mais c'est assez rapide parce qu'en France les choses sont assez claires. On n'a jamais de toute façon historiquement eu de vrai style en France, puisque comme les cultures football étaient bien plus développées autour de nous en Europe, on piquait à côté. Il y a eu quand même des périodes un petit peu plus fortes dans notre football. Il y a eu le Reims d'Albert Batteux qui était plutôt du beau jeu, des passes courtes et un football un petit peu plus séduisant.
Il y a eu Nantes.
Sauf qu'après, pendant
Nantes,
des années.
C'est un style particulier quand même, mais spécifique.
Avant ça, pendant des années, tu as eu la fameuse école Georges Boulogne où on était effectivement basé sur le côté un peu militaire, très discipliné. Il a fait des bonnes choses comme la création des centres de formation et une mise en place d'une certaine discipline dans le football, mais à côté de ça, c'était un jeu très très ennuyeux. Mais certaines écoles sont nées malgré tout, même dans la période la plus noire du football français, les années 70. Il y a eu un moment où on n'avait pas un style uniforme en France, mais Saint-Étienne avait un style auquel s'est opposé le style nantais. C'était des vrais styles. À Sochaux, ça jouait également bien au foot. Tiens, c'était Roland qui me racontait ça quand lui y avait joué. Il y avait des choses qui étaient faites de ce côté-là. Il y avait des styles. Auxerre a eu un vrai style. C'était des vrais styles de jeu, oui, avec des entraîneurs qui gardaient les joueurs.
Je suis d'accord avec toi, Daniel.
Longtemps ou pas longtemps, mais en tout cas, ils arrivaient depuis les jeunes à garder un style tout au long.
Et surtout qu'ils formaient les mecs pour se mettre dans le style.
Alors que les mecs partent ou pas, tu les
Tu es en train de parler de conséquences. Quand tu dis les écoles, ce sont des conséquences. Il faut regarder ce qui a été fait au niveau de la formation. C'est ça le...
Mais ça, c'est venu après.
Même dans les années 70, ça avait de la formation.
Oui.
C'est sur les méthodes. Moi, je parle des méthodes les modes opératoires. Tu as eu pendant on va dire les années 80-90, tu as eu, alors, ce que beaucoup le travail de formation était basé sur ce qu'on appelait le travail analytique. Le travail analytique, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est contrôle, passe, répétition des gestes. C'est basé sur le travail de répétition. C'est comme les mecs qui allaient à l'usine et qui faisaient la même tâche tous les jours. Au bout d'un moment,
là, tu maniais le ballon.
Je ne sais plus quel philosophe ou économiste, je ne sais plus, qui disait, quand tu as fait une chose 2000 fois, on peut dire que tu la maîtrises parfaitement. Donc c'était, tu étais toujours dans le travail de répétition. Et à un moment donné, dans l'histoire de notre formation, il y a une ou deux personnes qui, il faut le dire, qui eux-mêmes n'avaient jamais tapé dans un ballon, mais qui à un moment donné ont eu le pouvoir de décider. On dit, on ne veut plus faire du travail analytique, maintenant on veut faire du travail global, contextuel.
Oui, Willy, une parenthèse à ce stade, ne pas avoir tapé dans le ballon, encore une fois, ça ne veut rien dire. Sacchi a révolutionné le football en Italie, il n'avait jamais tapé dans un ballon. L'école portugaise des universitaires et de la méthode, on va dire,
de formation.
Mourinho,
Daniel,
c'était des gens qui n'avaient pas joué au foot.
Daniel, je te parle de formation.
Oui, mais quand ils ont mis en place leur formation, ils avaient des idées sur ce qu'ils voulaient voir dans le jeu, sans pour autant avoir été des bons joueurs de foot.
Au niveau de la formation, il y a des choses importantes, c'est que ils ont voulu donc contextualiser le...
Dis juste qu'ils ont eu des sales idées, tout simplement.
L'idée, pour moi, n'était pas bonne. Et elle perdure encore, ces idées-là. Ouais, c'est-à-dire qu'avant, tu le faisais arrêter. Contrôle, passe, tu vois, tu te mettais en face d'un autre joueur et tu faisais ça pendant 10 minutes, 15 minutes et tu faisais pied droit, pied gauche, contrôle, passe et tout. Maintenant, à un moment donné, ils ont dit non, ça, on ne veut plus le voir. Maintenant, on va le faire, on va l'intégrer dans le jeu. Parce que leur point de départ était de dire, une fois que tu es dans un match, avec la pression, le public, l'environnement, c'est plus pareil. Mais le problème, c'est que, et on arrive aujourd'hui à une chute énorme du niveau technique de nos joueurs, parce qu'ils ont voulu faire de la performance sur le côté technique, mais ils n'ont pas voulu faire les gamins. Et moi, je prends toujours un exemple. Quand j'avais des jeunes parfois dans les sélections nationales ou à Bordeaux, des jeunes qui comprenaient pas que moi j'étais. Alors, je leur faisais pas tout le temps faire parce que je sais que ça les fait chier. Et les nouvelles générations, c'est plus dur. Puis une fois que t'as pas été formé comme ça, tu vas pas le faire revenir. Mais moi, ils savaient que moi j'aimais le travail analytique. Alors, je disais oui, parfois c'est rébarbatif. Mais je prenais toujours un exemple. Je disais Mozart, quand il se levait le matin, il jouait pas. Il se mettait pas derrière un piano. Il jouait pas une symphonie. Qu'est-ce que faisait Mozart tous les matins? Il faisait ses gammes.
Mais tu aurais pu prendre l'exemple de Thuram. Ça parlait peut-être que c'est Mozart à tes joueurs.
Ouais, mais là,
Thuram, à 40 ans, il faisait encore des passes à 3 mètres, il en faisait 50 à son entraînement.
Mais, oui, mais je veux dire Mozart parce que c'était le.
C'était pas le plus grand des techniciens.
Dans
500 ans, tout le monde se rappellera encore Mozart. Tout le monde connaîtra Mozart.
Ah, bah, Thuram aussi, oh.
En France, certainement, oui. Mais voilà, c'est le côté de dire que même si tu as atteint un certain niveau, si tu veux continuer à progresser, il faut continuer à répéter les gammes. Et aujourd'hui, on ne répète plus les gammes. Donc, on a des joueurs, on a des joueurs qui ont surcompensé sur le côté, sur la vitesse, sur la force, mais le côté technique du football, et c'est Zidane qui en parle très souvent, et lui, c'est son point de départ, et je pense qu'il lui montre que c'est plutôt une réussite, qu'un joueur, s'il n'est pas capable de faire contrôle-passe, il ne sera pas capable de faire la passe dans le bon timing. Parce que ça a été ça, le dire. C'était de dire, les joueurs, faut qu'ils apprennent à faire une passe dans le bon timing. Ouais, ouais. Oui, mais si la passe déjà arrêtée, tu sais pas la faire, dans le bon timing, ouais, tu sauras pas la faire non plus. Et c'est cette évolution-là qui nous amène aujourd'hui. On a de moins en moins, on a eu pendant des générations et des générations, des joueurs avec une finesse de pied. Aujourd'hui, alors même si c'est notre meilleur joueur,
que tu développes par l'analytique en l'occurrence.
Exactement. Bah, exactement.
Jusque les années 80, 90, tu avais toujours dans chaque équipe des numéros 10, des mecs que tu formais en fonction de ce qu'on appelait anciennement le numéro. Ouais. Et chaque mec avec son numéro avait les spécificités qu'il fallait.
Tu vas tirer jusqu'aux années 2000.
Pour ce rôle-là,
aujourd'hui,
la bascule, elle est post 98, avec
un axe des années 2000,
avec un axe très fort mis sur l'athlétisation du football. Et quand on dit on a un style, oui, la France finalement a développé un style.
Aujourd'hui, quand tu regardes notre meilleur joueur, on va dire français, aujourd'hui on peut dire que c'est Mbappé par exemple. Mbappé a des qualités athlétiques extraordinaires. Enfin, presque un aveugle verrait qu'il a des qualités extraordinaires. Mais quand on regarde, par exemple, quand il est sur son pied gauche, il a aucune finesse de pied. On a l'impression que son pied gauche, la cheville. Quand on regarde, quand il fait par exemple des passes ou des centres pied gauche, sa cheville gauche est bloquée. Par exemple, comme les Sud-Américains qui travaillent beaucoup sur les plages où ils ont des mobilités de cheville que nous, nos joueurs n'ont plus aujourd'hui. Parce qu'on a privilégié à un moment donné une force et une vitesse.
Oui, prenons simplement des mecs, puisque tu dis que c'est notre meilleur joueur, on va le prendre comme, pavillon témoin de notre explication. On aime beaucoup tout ce qu'il a énormément de qualité, mais prenons des joueurs à ce poste-là, on va dire attaquant de la ligne de 3 en haut, soit en haut à droite, à gauche, ou des fois il est dans l'axe et tout. Et voyons le nombre, qui sont des joueurs peut-être pas meilleurs que lui, j'en sais rien, mais des joueurs plus techniques que lui, plus à l'aise avec le ballon. Les deux de Liverpool sont plus à l'aise avec le ballon que lui, que ce soit Salah ou Sadio Mané, on est d'accord. À City, on a quoi, Riyad Mahrez, avec le ballon,
Sterling.
C'est beaucoup plus fin. Qui tu dis, pardon ?
Sterling.
Sterling, il a beaucoup bossé.
Il bosse.
Tu peux en faire une liste longue,
Même les Messi, les mecs, tu vois, techniquement, c'est différent. Dans notre formation, même le meilleur joueur actuel, techniquement, on va dire que c'est que ce soit du velours, quoi, tu vois. Il n'y a pas. Après.
Tu prends le joueur le plus. Pour parler crûment, le plus technique.
Pour moi, notre meilleur joueur, c'est Griezmann. Mais il n'est pas formé en France.
Mais il n'est pas formé en France. Voilà.
Alors, on va continuer le débat, mais j'aimerais qu'à ce stade de la discussion, Antoine donne son avis au 32-16. Salut Antoine.
Salut, bonsoir à tous.
Bon, alors, salut Antoine. Je rappelle qu'on fait ce débat parce qu'on a vu des matchs cette semaine pauvres.
On en sort
hier et avant-hier.
Ouais, sauf que là, il y a
donc, du coup, hier soir, on se disait dans l'after.
Ouais, c'est généralement le coup de bâton sur la gueule.
Alors, toi, tu as entendu le débat là, comment tu te positionnes ?
Je voulais dire bravo à Willy parce que j'allais préparer exactement le même argument sur Mbappé quand il l'a amené. J'étais content de l'entendre. Ou justement, c'est le pavillon témoin, comme dit Daniel, où c'est ce qui se fait, même dans ce qui se fait le mieux en France, on se rend compte que, techniquement, ça reste en dessous de certains cadors mondiaux. Et au-delà de ça, je voulais ajouter aussi que peut-être que je me trompe, mais le style qui s'installe en Ligue 1 avec de la solidité défensive, des attaquants qu'on laisse un peu libres. Je pense qu'ils sont un peu dus aussi au fait du modèle économique qu'on est en train d'instaurer dans les clubs français, où les entraîneurs en fait ne s'inscrivent plus dans la durée, puisqu'ils savent que leurs meilleurs joueurs vont faire 2-3 ans grand max dans le club. Et donc pour eux, ils disent que c'est beaucoup plus simple d'aller asseoir une solidité défensive et puis de se dire devant, allez, si j'ai un ou deux joueurs techniques on va les laisser libres. Et du coup, on n'a plus du tout de plan de jeu offensif. Moi, ouais, qui suis bien Lyon, c'est le meilleur exemple. Depuis le début, on dit oui, on va essayer de avoir de la maîtrise au milieu, etc. Mais devant, c'est toujours aller de la liberté et on travaille aucun circuit préférentiel. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Et je pense que l'une des raisons est vraiment les directives sportives des clubs qui décident de plus du tout s'inscrire dans la durée ou dans le trading de joueurs, etc.
Bah écoute, on va détailler ça dans quelques instants ensemble.
C'est même assez formidable que finalement, il y en ait quand même qui réussissent à passer entre les mailles du filet de cette formation qui est très standardisée.
C'est intéressant ce que dit Antoine. Hein.
Tu vois que t'es quand même... Il y en a quelques-uns, tu vois, bah, puisque en ce moment on en parle beaucoup, Payet est passé au travers de ça, parce que techniquement, alors lui, il a pas travaillé d'autres aspects, mais techniquement, c'est un mec qui est vraiment différent.
Non, mais même des joueurs de moindre renom, je sais pas, Savanier par exemple.
Non, mais t'en as d'autres.
Ouais, Savanier, on n'est pas. Il a une bonne qualité de passe.
On produit pas que des clones non plus.
Quand t'as 80%, après t'as les exceptions autour, mais la grosse base, elle est là quand même.
Non, mais après, tu parlais de la répétition des gestes. C'est sûr que t'es pas obligé de tomber sur des formateurs parce qu'on peut parler d'Mbappé. Moi, je vous écoute sur Mbappé. Il y a pas de problème. Son point fort de Kylian et depuis qu'il est jeune,
c'est l'explosivité, c'est la vitesse.
Donc automatiquement, il s'est formé comme ça et avec des qualités techniques bien supérieures à la moyenne, sans aucun doute qu'il ait quelques faiblesses encore. Oui, écoute, après on joue.
Il a pas un maniement du ballon. Alors peut-être qu'à son poste, c'est pas un 10, donc on le demande pas. Mais il a pas un maniement du ballon.
Oui, mais peut-être que c'est ses caractéristiques qui font que le maniement du ballon, comme tu dis, il y a des joueurs à l'étranger. Après, on peut toujours comparer qu'ils ont un peu plus d'aisance, plus de facilité. Mais parce que ça va dans le profil des joueurs. Là, tu parlais de Mahrez, toi, Daniel. Moi, Mahrez, je l'ai connu quand il était en France.
Il avait besoin de bosser autre chose.
Il le savait.
Mais techniquement, il savait.
Et pourtant, il est formé en France.
Mais lui, ce qu'il avait besoin de bosser, c'est fallait mieux qu'il aille à l'étranger pour le bosser. La discipline, la rigueur, la répétition de l'effort.
Mais non,
en France, c'était mort.
Mais c'est mort. Mais non, parce qu'on lui a pas donné sa chance en France. C'est tout simplement.
On lui aurait pas donné, bien sûr.
Mais pourquoi on lui a pas donné?
Parce que dans un contexte français, il n'aurait pas travaillé.
Mais non, mais pas du tout.
Quand tu as une conscience
professionnelle, tu l'as ou tu l'as pas.
Bah, en France, c'est vrai qu'on lui a
le
pas
problème,
donné
c'est qu'on lui a pas donné sa chance parce que ça va dans les critères qu'on vient de dire juste avant. C'est que ça intéressait peut-être pas forcément les entraîneurs.
Et donc, aujourd'hui, le contexte à l'étranger ne favorise pas plus le travail.
Attends, les gars, pause.
Le sérieux des clubs, des coachs, des.
Willy, je te donne la parole juste après.
Sérieux, même en France.
Et puis, on parlera après de l'uniformisation aussi des styles au niveau européen, parce qu'aujourd'hui, il y a des modes comme ça qui sont lancés par certains et puis tout le monde a suit. On l'a vu en France, on le revoit aujourd'hui. Alors aujourd'hui, la mode, c'est le gegenpressing.
Ouais,
c'est toi, mon coco.
On va en parler dans quelques instants. Quand je vous l'aurai traduit, vous allez voir que ça date pas d'aujourd'hui.
Hein. Très bien. Ouais. À tout de suite dans l'after pour continuer le débat. Et n'oubliez pas qu'à 22h, on parlera du Brexit et de ses conséquences pour le foot anglais. À tout de suite.
Le faire aussi.
RMC, 21h30. L'after foot, Gilbert Bribois.
Willy Sagnol est là, Jérôme Rotten est là, Daniel Riolo est là. Le basket, on fait le point sur France-Australie féminin. Tournoi de qualification olympique pour l'équipe de France, Arnaud Valadon.
La deuxième mi-temps qui va repartir dans moins de 10 secondes et la France est devant 36-30 et c'est une très belle opération pour ce premier des trois matchs pour aller au TQO, pour aller aux Jeux Olympiques de Tokyo. Une victoire et ça devrait suffire pour cette équipe de France ici à Bourges. 36-30 pour ce premier match face à l'Australie et deuxième mi-temps dans un instant.
On continue notre débat tactique dans l'after suite au match de Ligue 1 tout pourri qu'on a vu ces derniers jours. La Ligue 1 a-t-elle un style? Alors, juste avant d'aller plus loin, les gars, quelques réactions. On me dit, c'est Petit Con qui dit ça, mais attendez, regardez nos entraîneurs. Quand on parle de Guardiola, de Klopp ou de Bielsa, il y a un style. Mais c'est quoi le style des nôtres? C'est quoi le style de Genesio, le style de Garcia?
Blanc, je suis désolé, attends, je
lis les trucs, puis après vous réagirez. Cass qui me dit, regardez les Espagnols. Aragonès disait, chacun connaît son rôle et joue sa partition. On forme des spécialistes à leur poste. Voilà ce que dit Cass. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai Nico qui nous dit, Daniel, je t'adore, mais le t-shirt sous la chemise, c'est pas possible, tu passes à la télé quand même. Ça, c'est tactique.
Pas au courant de ce qui se fait, c'est pas grave. Ouais. Moi, je suis toujours.
Donc sur Blanc, t'étais pas d'accord là sur le.
Non, parce que Blanc, si on peut lui reprocher plein de choses, mais il a apporté un style au Paris Saint-Germain. Et ce style a même été repris quand Emery est arrivé, parce que lui devait changer ce style un petit peu de grosse possession et que ça ronronnait. Et on lui reprochait même à Laurent Blanc, et que quand ça n'a pas été, Unai Emery avec ses grandes idées. Ça s'est vu par la suite qu'il avait des grandes idées. Il est revenu à ce que faisait.
Mais ça confirme une chose, Gilles Blanc. Ça confirme une chose, c'est que c'est bien beau de dire les autres, ils ont un style. Oui. En France, on n'a pas style. Oui. Non, c'est pas vrai. Ton style, il est toujours dépendant des joueurs que tu as de toute façon.
Après, et
que tu peux pas jouer, tu vas pas pouvoir jouer un jeu de transition, puisqu'on parlait de la transition en off, un jeu de transition rapide vers l'avant, si t'as des mecs qui font, si t'as que des attaquants qui font 18 secondes au 100 mètres.
Oui, généralement, c'est pas ce qu'on a en France. On a plutôt, s'il y a un domaine dans lequel on peut rivaliser, c'est la vitesse. On a souvent que des coureurs à pied. Maintenant, la transition, ça n'est pas simplement courir à pied, parce qu'il faut aussi assurer la fameuse passe qui va permettre la transition. Le mec qui reçoit, il va falloir qu'il sache contrôler et accélérer et courir avec le ballon. Le problème, c'est que nous, comme on fait les mecs qui sont bons à courir le 400 mètres ou le 100 mètres, quand il y a le ballon, ils savent plus quoi faire avec. Et le mec qui fait la passe, bah, la passe, il la fait en tribune.
Ça, c'est le deuxième
mais
élément.
Le foot est en pleine athlétisation de plus en plus.
C'est le deuxième volet.
Le fameux pressing contre pressing, ça demande des efforts et un travail, pour en fait être une bête.
Moi, je suis pas d'accord avec ça.
Physiquement, il faut être. Moi, physiquement, il faut tenir. La répétition de l'effort.
Non,
Willy.
Non. Pourquoi?
Explique.
Alors, mais c'est très simple. On dit transition. Transition, c'est quoi? C'est quand tu gagnes le ballon ou quand tu le perds.
Oui.
Aujourd'hui, pourquoi tu as plus de transition sur un terrain? Tout simplement parce que tu as le niveau technique qui a baissé, donc tu as plus de pertes de balles. Donc, plus tu as plus de pertes de balles, forcément, c'est plus d'efforts. Aujourd'hui, les Espagnols,
on ne dit pas assez que effectivement le niveau technique des joueurs globalement, tu fais bien de le dire parce que ça on le dit pas assez, mais entre aujourd'hui et il y a même 20 ans, le niveau technique global d'une équipe, c'est vrai, a baissé. Donc, parce qu'on a misé sur équipes, il y a encore des joueurs techniques.
Niveau physique,
on parle toujours globalement, on peut pas parler de cas spécifiques, on parle globalement. Donc comme le niveau technique baisse, forcément tu as plus de jeux de transition. Donc ça demande plus d'efforts.
Bah parce
plus
qu'on a, ça demande... on a mis l'accent sur autre chose.
Oui, mais plus ça demande d'efforts, oui, moins t'as de lucidité, donc plus t'as de pertes. Donc tu vois, c'est une course effrénée vers l'avant.
Exactement.
Alors que aujourd'hui, il y a aussi une chose qu'on ne fait plus, et notamment en France, c'est le travail au poste. Le travail au poste. J'ai l'impression que ça fait chier tout le monde quand on dit faut travailler au poste. Pourquoi? Parce que t'as les latéraux qui veulent aller marquer des buts, t'as les centraux qui veulent plus tacler, t'as les numéros 6 qui se prennent tous pour des Pirlo.
Non mais Willy, c'est un football qui a changé.
Oui, mais
je comprends tes critiques, mais je suis quasiment d'accord avec tout ce que tu dis. Maintenant, sur les grands matchs de Ligue des Champions, oui, le foot
mais
a changé.
Mais t'as pas de club français dans les grands matchs de Ligue des Champions.
Non, mais moi je te parle des... Oui, mais ça m'empêche pas d'en parler des grands matchs de Ligue des Champions.
Non, on parlait de la France.
Je voulais recentrer sur. Ouais. Non, mais si ça empêche pas. Moi aussi, je constate qu'il y a moins de joueurs techniques dans les équipes, il y a moins de gestes et tout, parce qu'on va plus vite et tout ce que tu as dit est vrai. Ça empêche pas néanmoins qu'on voit encore des très beaux matchs, mais qui reposent sur peut-être d'autres qualités. Et c'est pour ça qu'on a tous ces matchs parfois qui basculent avec des suspens un peu de dingue, comme on a vu l'année dernière, parce que ça se joue vraiment sur ces phases de jeu où on bascule, où on va mettre un but improbable, oui, parce qu'on est moins dans le contrôle. On est moins dans le contrôle des phases de jeu.
Exactement. Je suis d'accord.
Alors,
Après, les gars,
attendez. Avançons parce que est-ce que le fait qu'il n'y ait pas un style très identifié non plus chez nous, ça vient pas aussi d'une uniformisation? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, t'as des grandes tendances qui sont lancées. Guardiola, par exemple, a lancé une grande tendance. Bon, ben voilà, un peu partout, on veut essayer de faire pareil.
Donc, quasiment personne essaie de faire pareil.
Non, mais tu peux pas. De toute façon, tu peux pas.
Ils ont l'ambition, en tout cas, pour certains de le faire.
D'où le fait que tu n'as un style.
Les Anglais jouent de cette façon, les Espagnols jouent de cette façon.
C'était il y a 40 ans, ça.
Aujourd'hui, c'est fini.
Non, mais t'avais un style qui était un peu national.
Tout ça est uniformisé.
En France, de toute façon, on n'a jamais eu ça. Parce que nous, on a copié. On a d'abord essayé les Allemands. On a ensuite essayé de copier les Italiens. Ensuite, on a fait les Espagnols quand en 2010, Blanc et Blacard disent essayer de nous faire des joueurs petits, techniques. On a toujours essayé de copier ce qui se faisait ailleurs. Nous, de nous-mêmes, on a rarement, sauf dans certaines écoles, comme je disais tout à l'heure, comme Nantes ou Auxerre, où on essayait de bosser sur des styles et avec des mecs, par exemple à Auxerre, tiens, vous allez être des ailiers qui allaient bouffer la craie, ou à Nantes, où on essayait de faire du jeu plus technique. Mais grosso modo, nous, on développait pas ce genre de choses.
Même nos équipes, culturellement parlant, nous, Français, on assume.
Pas, on n'avait pas de penseurs de foot.
Non, mais c'est pas ça. C'est qu'on n'assume pas, et ça n'est pas que dans le foot. Aujourd'hui, regarde. Aujourd'hui,
on
tu as. On n'assume pas nos pensées ou nos envies ou. Dans le sens
non,
là,
Willy, non, va plus loin.
Je vais aller plus loin.
Le sport d'intellectualiser le sport.
Je vais aller plus loin.
C'est la même chose dans le rugby. Quand tu vois Daniel, ce que fait Galtier Daniel, quand il arrive Daniel, de qui il s'inspire
Daniel,
et des mecs qui étaient là avant et quand on critique les Anglais parce qu'ils réfléchissent
Daniel,
trop.
Daniel, si on parle que de foot.
Ben moi je peux parler
si on
les
parle
autres
que
sports.
De foot, je dis on n'assume pas, on n'est jamais content. En France, on n'est jamais content. C'est-à-dire que là, tu es champion du monde, on n'est pas content parce que ça joue pas à l'espagnol avec des petites passes et machin et trucs. Quand avant, tu jouais comme ça avec Platini, Gires, Tigana, techniquement, c'était extraordinaire. On dit, oh, mais on s'est fait bouffer par les Allemands, ces boeufs d'Allemands, il faut qu'on y aille plus physique. On n'est jamais content. On n'assume pas, à un moment donné, d'être ou des précurseurs ou être en avance
non, mais ça,
ou
on l'a jamais
partir
été.
Sur
en
une
foot,
sur
en
une
foot,
idée
on, jamais été.
On assume
en sport,
pas
on l'a rarement été
mais c'est pas que dans le sport c'est aussi dans notre culture globale en France aujourd'hui tu le vois aujourd'hui avec tous les problèmes sociaux qu'on a aujourd'hui en France on se dit toujours c'est nul notre système de retraite c'est nul
ça, c'est vrai,
notre
ça, c'est
travail
ça,
c'est nul notre truc c'est nul c'est nul mais dès que tu vas à l'étranger
tu te rends compte à l'étranger pour s'apercevoir
qu'on a les meilleures choses chez nous
oui ça c'est vrai
et parce qu'on est jamais en France on veut
sur le fait qu'on n'a pas le meilleur championnat, on est tous d'accord quand même.
Oui, ça, moi, ça, oui,
100%
oui.
d'accord.
Le problème, c'est que ce que tu dis est vrai, mais sur le foot, malheureusement.
Culturellement, en France, on veut toujours ce qu'on n'a pas. On veut toujours ça, on veut toujours ce qu'on n'a pas en France, on est comme ça. Et aujourd'hui, tu es parti. En plus, pour moi, il y a une chose qui est dramatique aujourd'hui, c'est l'américanisation du football. En France, surtout dans notre mentalité chez nous.
Où
aujourd'hui, les stats.
Allez, one to one.
Aujourd'hui, on se dit, lui, il a couru 11,5 km. Oh, putain, qu'est-ce qu'il a couru aujourd'hui? Mais dites-moi, nous, il y a 20 ans, on courait tous 12,5 km par match. Mais seulement à l'époque, tu communiquais pas même sur les distances.
Ouais.
Mais aujourd'hui, mais
personne ne les mesurait.
Voilà. Non, mais si, on te les mesurait.
Sur ce point-là, justement, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça va dans ce sens-là. C'est que pour améliorer le rendu et pour nous faire avaler la pilule des crottes qu'on voit toutes les semaines à la télé, le nouveau diffuseur qui va prendre en main la Ligue 1 à partir de début août, il a déjà annoncé qu'il allait filmer les matchs autrement, qu'il allait mettre des stats en direct sur la télé parce qu'il sait, il s'est aperçu de la pauvreté du spectacle qu'il va devoir proposer et il a déjà annoncé tout un tas de façon de faire, je vais pas dire de révolution, mais pas loin dans la façon de rendre le spectacle avec des stats limite au moment où le mec frappe.
Oui, t'as l'éphémère.
Regarde, mais ça a été fait par tous les diffuseurs. Non, mais là, on va
Daniel, aller
une étape supplémentaire.
Ils le font déjà en Espagne en fait. Hein, tu regardes la match espagnol, t'as la façon de filmer.
Il y a un an de ça, et moi j'ai été surpris. J'ai essayé d'en parler, je me suis fait un peu reprendre de voler, mais j'ai été surpris qu'il y a un an à peu près, personne n'ait été choqué. Il y a eu un président qui est resté quelques mois président de club en France, qui était à Nice. C'était le celui qui était tout jeune, je me rappelle même plus son nom.
Gauthier Ganaï.
Voilà, il a parlé à un moment donné de recrutement et il a dit et il l'assumait. Il disait, on va travailler avec des algorithmes.
Oui, bien sûr.
Oui, parce que lui, il est reconnu sur Football Manager en Angleterre.
Non, mais dans un club qui était en D4, comme le culte du film Le Stratège. Mais vous l'avez vu le film avec c'est très bien, puisque le Stratège, c'est du baseball. Baseball, c'est quoi? C'est un jeu situationnel, c'est-à-dire c'est pas un jeu en continuité. Donc tu peux aller sur des stats, prendre des mecs par rapport à leurs stats.
Ils ont mis la VAR alors que justement c'était pas approprié au foot pour cette même raison.
Tu peux aller sur certains sports peuvent aller sur les stats. Le basket, t'es pas dans la continuité, t'es sur des sports de situation. Dans le foot, t'es sur un sport en continuité, tu ne peux pas aller là-dessus. Et moi, je trouve que c'est le. Aujourd'hui, tout le monde dit, il a fait 35, il a fait 40 sprints dans le match. Ouah, c'est génial, il a fait 40 sprints. Mais dis-moi, votre indice, c'est 22 km/h le sprint. Mais si un joueur de foot ne peut courir qu'à 22 km/h, si c'est un sprint à partir de 22 km/h, à ce moment-là, on est tous des Usain Bolt.
Alors attendez, j'aimerais dans quelques instants on continue le débat avec Youssef et puis il va falloir qu'on parle des modes on va dire de saison parce que chaque saison a sa mode en Ligue 1. C'est alors la saison de la défense à 5. Tout le monde jouait à 5. Après, on a parlé du jeu de transition. Il y avait la mode du jeu de transition.
Il a toujours existé, le jeu de transition.
Oui, mais on n'en parlait pas.
Non, la transition, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais quand tu récupères ou qu'est-ce que tu fais quand tu...
Et on va arriver à ton gegenpressing, là, qui est la mode du moment, dans quelques instants, avec Youssef au
32-16.
A tout de suite, le débat tactique continue dans l'after.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Willy Sagnol est avec nous, Jérôme Rotten également, Daniel Riolo, c'est l'after jusqu'à minuit. Bien sûr, on conclut notre débat tactique avec Youssef d'abord, au 32-16, qui est avec nous, qui nous écoute depuis tout à l'heure. Salut Youssef.
Ouais, bonsoir les gars, ça va?
Ça va et toi?
Salut Youssef.
Bonsoir. Ouais, ça va.
Bon, on parle du style Ligue 1, t'as entendu, et des causes, des conséquences de ce qu'on voit actuellement en Ligue 1. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce que t'as entendu là?
Ouais, bah en fait, en petit postulat, j'ai entendu tout à l'heure que bon, le joueur français le plus technique, c'était Griezmann. Bon, moi, je trouve personnellement, on parle pas de l'équipe de France bien évidemment, mais bon, pour moi, c'est Benzema.
Non, mais on parlait de l'équipe de France, hein.
Ah, on parlait pas des joueurs français?
Alors,
Benzema fait partie des plus techniques.
Alors Benzema, oui, alors largement, bien sûr.
Pourquoi largement?
Parce que c'est un très bon joueur, et Griezmann aussi.
Il fait largement partie des meilleurs joueurs.
Après, si on prend en technique pure, les mecs qui font 12 dribbles dans une pochette surprise,
ça
ne
veut rien dire, ça. Ça ne veut rien dire.
Il ne faut pas être que technique avec le ballon, faire des jongles. C'est un grand mot, la technique.
Il faut être technique par rapport à ton espace.
On parle de technique efficace, on ne parle pas de technique
derrière. Sinon, le plus technique, c'est Ben Arfa. On n'a qu'à dire ça.
Youssef,
vas-y.
Parce que tout à l'heure, Willy parlait du pied gauche et tout, c'est vrai. Moi, je suis supporter parisien, je vois Mbappé. Je le vois pas marquer de la tête, je le vois, son pied gauche, il est dégueulasse. Il lui sert à embrayer, je pense. Mais par exemple, Benzema, son pied gauche, il marque des buts de la tête et tout. Mais au-delà de ça, Jérôme, qui suis surtout champion anglais, en fait, moi, je pense que la Ligue 1, le problème, c'est bien évidemment, il y a les joueurs, mais il y a ceux qui les entraînent. Parce qu'il y a des joueurs, j'ai trois exemples en tête, où des joueurs ont pensé qu'ils allaient pas faire, que ça allait pas être des cracks. Et finalement, ils sont tombés sur le bon entraîneur au bon moment. Il y a Sterling déjà. Sterling, quand il était à Liverpool.
C'est le travail, Daniel... ça s'appelle le travail, ça.
Non, Daniel, il appelait ça un tout droit. Quand il était à Liverpool.
Absolument. Mais tu as absolument raison, c'est pour ça que je dis c'est le travail.
Le travail du coach,
tu as raison, je suis d'accord avec toi.
Et le travail, je vais bien, non, Daniel.
Sterling, c'était un tout droit à Liverpool.
T'es deux autres exemples, vite fait, Youssef, avant que Jérôme prenne la parole, vas-y.
Ouais, et j'ai un joueur que Mourinho, il disait qu'il allait jamais être au niveau, c'est Salah. Et il y a De Bruyne. Je suis désolé, à un moment, on nous vendait que Draxler était au niveau de De Bruyne. Eh ben, on a pris le mauvais parce que De Bruyne aujourd'hui.
Ça me rassure, Mourinho est pas français.
Non, mais après Youssef.
Alors, c'était à Jérôme
après,
là.
Youssef, les carrières parfois évoluent pour certains joueurs, mais Draxler a d'énormes possibilités. Est-ce qu'après il a eu envie? Est-ce qu'il a bossé? Est-ce qu'on l'a mis en confiance?
Oui, mais je pense
Draxler, il avait d'énormes possibilités
au
départ.
Oui, mais il y a des joueurs avec des entraîneurs. Là, regarde, vous parliez de Sterling, bien sûr. Guardiola, il lui a changé sa vie.
Il l'a transformé.
Il a changé sa vie parce que Guardiola a des idées bien précises sur le jeu et ce qu'il veut mettre en place. Il a des idées bien précises aussi sur comment il les fait bosser aux entraînements, et je parle en connaissance de cause. Ce que je veux dire, c'est que les exercices et ce qu'il met dans la tête des joueurs, comment il les fait répéter les gestes, tout à l'heure où il en parlait.
La confiance que tu donnes à un mec aussi.
Oui, il n'y a pas que ça, il y a aussi la faction dont il bosse. Dire, va voir la majorité en France des entraîneurs français qui entraînent en Ligue 2 et en Ligue 1. Tu verras comment ils font bosser ces joueurs-là pour leur faire passer un cap. Non, mais il y en a, et malheureusement, et c'est pas craché dans la soupe, mais malheureusement, il y en a pas beaucoup.
Ouais, mais il y en a, alors, il y en a peut-être pas beaucoup, ça c'est un débat qu'on pourrait avoir, c'est autre chose, mais la problématique aujourd'hui, c'est quand t'as, par exemple, allez, on va prendre, quand t'as Gourvenec qui dit à un joueur, tiens, là, tu vas me faire 100 fois, contrôle, passe, le joueur, au bout de 10 fois, lui, va te faire foutre. Si c'est Guardiola qui lui dit, le joueur, il veut faire, oui, tout de suite, et j'en ferai même 200. C'est ça aussi.
C'est la culture française.
Ancelotti, ça lui a pris 6 mois au PSG pour dire les joueurs français, de façon, dans votre contexte, en France, vous voulez pas travailler. Dès que vous êtes ailleurs, dans un autre contexte, vous travaillez fort.
Pourquoi Tuchel a viré tous les jeunes l'année dernière?
Bien sûr.
Et il en a gardé que 2-3 parce qu'il a senti que les 2-3 étaient à l'écoute.
Et Sterling, il prend l'exemple de Sterling, c'est vrai, il y a eu une belle progression. Déjà, à Liverpool, c'était très bon. Il avait des manques, mais c'était déjà très bon. Là, il a encore passé un cap à Manchester.
Ça n'a rien à voir.
Mais le petit Sterling, s'il ne se bouge pas le cul à Manchester City, et parfois, il y a des périodes dans l'année où c'est moins le cas, il ne joue pas.
Mais bien sûr,
il
perd sa place.
Joue pas. Alors que si c'était le même cas dans,
il fait
en
pas
France,
nerveux, ça
si c'était un joueur avec un fort potentiel, ou avec un fort potentiel, une forte valeur marchande, le joueur, il continuerait à jouer. Donc, il travaillerait moins, mais il continuerait à jouer. Donc, c'est pas dans la bonne éducation.
Donc, les modes passagères, là, donc, ça te fait bien rigoler, toi?
Ouais, en fait, c'est pas que ça me fait rigoler, Gilbert, c'est parce que on essaye aujourd'hui, puisque le foot, ça a pris tellement d'ampleur depuis quelques années,
ouais,
que tout le monde, tout le monde veut y mettre son petit grain de sel, tout le monde veut une petite, et surtout, tout le monde veut une part du gâteau. On veut pas juste le grain de sel, on veut la part du gâteau. Et aujourd'hui, on se dit, gegenpressing. Oh, c'est la tendance. Mais le gegenpressing, ça a toujours existé. Gegenpressing, c'est quoi? C'est quand tu perds le ballon, t'essaies de le récupérer tout de suite.
Oui,
mais
c'est
alors, c'est sûr, c'est moins sexy. Tu vois, j'ai mis une phrase pour le dire. Alors que gegenpressing.
Non, que l'expression t'amuse ou que, je sais pas, tu vas y pas la retenir et tout, mais il n'empêche que non. Excuse-moi.
Elle a 11 ans déjà, c'est Guardiola. C'est Guardiola au Barça.
D'accord, oui, bien sûr. Mais la recherche de la récupération rapide avec les fameuses 4 secondes, le pressing très très haut, la réduction de l'espace en
remplaçant. Mais c'est ça.
On l'a pas vu sans fois non plus.
Non, mais ça.
Aujourd'hui, les équipes de haut niveau essayent de faire ça.
Guardiola l'a fait avec le Real parce que Guardiola, pourquoi il l'a fait?
Klopp fait ça aussi.
Pourquoi Guardiola a été un des premiers en Europe, je veux dire, à le remettre au goût du jour? C'est parce que Guardiola, il avait des joueurs techniquement très bons, mais qui athlétiquement, par exemple, ne pouvaient pas faire 80 mètres à 100%.
Pour récupérer le ballon.
Donc, il fallait le récupérer plus haut. C'est automatique. C'est automatique. Quand tu as, par exemple, en France, déjà, on parle niveau technique moins bon, donc il y a plus de transition. Donc forcément, t'es encore plus dans le gegenpressing, mais plus c'est un mot allemand, on l'utilise pas en France, faut pas l'utiliser.
Mais en France, donc, personne ne fait ça. Les
travail à la perte.
Willy, le bloc est bas, tu récupères et tu balances devant sur un mec qui court. C'est où est-ce qu'il est le pressing?
Mais c'est normal.
En France, tu veux gagner du duel, tu fais du 1 contre 1 pour gagner des duels.
Daniel, c'est quoi le gegenpressing? Le gegenpressing, c'est le travail à la perte que tu fais dans le camp adverse.
Mais comment en France ça, les blocs ils sont à l'intérieur du propre camp.
Mais parce que pour se placer dans le camp adverse, il faut avoir une dominance technique pour faire monter tout le bloc. Mais tu l'as pas. Donc ton bloc il peut pas monter haut.
C'est l'entraîneur
qui a essayé aussi de dire aux mecs essayer d'être un petit peu plus long.
Et Guardiola, il a pris ça.
De dessiner des équipes qui soient un petit peu plus ambitieuses.
Guardiola avait pris ça déjà de Bielsa à l'époque où Bielsa était au Mexique.
Mais bien sûr,
je dis que les entraîneurs, après moi il y a le contre-pressing et ça a toujours existé, là je te rejoins Willy parce que
les équipes elles font plus reculer
parce que Daniel quand tu dis
attends,
à Guardiola moi j'ai attends j'en ai connu des entraîneurs et pas forcément les plus médiatiques je l'ai pas eu Gislain Printemps il était à la formation mais je me rappelle mes premières saisons à Caen ce que je veux dire il y avait toujours c'était pas Garande c'était Théo tu vois et Alain Perrin pareil te demander ça mais après il peut y avoir des styles différents. Moi, ça me dérange pas quand t'attaques à deux ou à trois des équipes qui, comme dit Willy, l'entraîneur, il se rend compte que déjà il a des idées où il veut un bloc plus bas et essayer de contrer. Ça peut arriver. Ça, c'est un style de jouer au football. T'as pas toujours le même style.
Oui, bien sûr.
Tu peux le comprendre. Donc dans ces cas-là, en effet, le fameux gegenpressing, tu peux pas le faire.
Quand tu veux contrer, t'es pas obligé de contrer avec deux mecs qui cavalent. Tu peux aussi le faire de façon un peu plus organisée. Le jeu de contre-attaque, ça peut être très séduisant.
Exactement.
Mais ça dépend comment tu bosses, d'une seule chose, c'est à un moment donné, il faut que les joueurs comprennent ce que tu veux.
Il faut surtout qu'il y ait une osmose collective.
Il faut que les joueurs comprennent. Quand à un moment donné, pourquoi un truc très simple que fait Klopp à Liverpool, tout le monde s'extasie sur sa façon de presser. Mais nous, avec Jérôme, on a fait ça déjà il y a plus de 20 ans.
Oui.
C'est-à-dire, quand tu vas au pressing, aujourd'hui, si tu dis à un jeune joueur français qui passe par les centres de formation, donc avec une formation un peu différente, on lui dit tu vas presser, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller tout droit sur le joueur qui a le ballon. Parce qu'il va dire, oh, mais tu vous m'as dit de presser. Je lui dis, mais non. mais ça sert à rien d'aller presser en allant tout droit sur un mec. Qu'est-ce qui fait l'efficacité d'un pressing? C'est quand tes joueurs offensifs remplissent deux fonctions. La première, c'est de sortir sur le porteur, mais en même temps, de se placer entre le porteur et un autre joueur.
Place, ouais.
Voilà. Ouais. Et ça, avant, c'était je dirais c'était presque simple, on le faisait presque sans y penser. Oui,
c'était
parce
automatique.
Que, voilà, c'était automatique. Aujourd'hui, les jeunes vont sur un porteur de balle. Il y a la passe qui est faite et ils se retournent et ils regardent les autres derrière. Ils disent mais vous êtes trop loin les gars.
Ouais, c'est
mais
ça.
Mais exactement. Ça marche pas comme ça.
Effectivement, t'as personne qui coupe.
Mais c'est ça aussi, Daniel. C'est là-haut. Le foot, c'est pas que les pieds.
Ben ça se travaille.
Le foot, c'est pas que les pieds.
T'as l'air de dire qu'il faut pas être admiratif ou béat devant ce que font les autres. Bah si, excuse-moi.
Mais j'ai pas dit.
Moi, je regarde.
J'ai pas dit ça, Daniel.
Non.
Il vient de faire une spéciale Daniel.
Non, mais
pardon.
Je dis juste que c'est très bien ce qu'il fait.
C'est très bien. Plus clair que toi.
C'est très bien ce qu'il fait, mais il y a aussi le foot, et on se rend compte, les grandes équipes, le Real, Manchester City, Liverpool, sur le terrain aussi, les joueurs qui jouent, c'est des mecs qui réfléchissent.
Mais Willy, tu prêches un convaincu.
Et la capacité de réfléchir, c'est la base du football. Avec la technique, ce sont la base.
Oui, bah écoute,
on aurait pu parler du côté moutonnier aussi de nos coachs. Vous avez remarqué, alors quand il y en a un qui a commencé à mettre un latéral un peu plus haut au-dessus d'un autre latéral, hop, il y en a plein qui l'ont fait aussi. Puis quand il y en a un qui a voulu faire une défense à 5, hop, il y en a plein qui l'ont fait aussi.
Parce que t'as pas d'idée.
C'est aussi assez étonnant.
On pense pas chez nous, on pense pas, il n'y a pas de mec qui pense.
Willy, merci en tout cas.
Avec plaisir.
Nous, il faut vendre.
J'ai un message pour Willy de Ibe qui lui dit mais il est bon ce Willy. Il est totalement after compatible, nous dit-il. C'est pour ça qu'il est là d'ailleurs.
Ah ouais. Voilà. c'est en fait, c'est mon cousin.
Je t'ai pas dit.
Non, je rigole.
Merci en tout cas. Comme nous, on fait aussi un peu de gegenpressing et que là, t'as tout donné, on te fait sortir.
C'est gentil, je suis cuit.
Je suis cramé. Préparez ta séance.
Dans quelques instants, on parle du VAR en Angleterre qui veut évoluer. On parle du Brexit.
C'est un sujet pour Jérôme, ça.
Bref, pas mal de sujets intéressants. Et puis la commission de discipline qui s'est réunie. Je vous donne les résultats juste après le journal de 22h.
Il est déjà au courant, de toute façon, t'as tout marqué.
France-Australie, un point score rapido, Sardo.
Oh, c'est très chaud, l'équipe de France est devant, 59-49. Il reste 9 minutes dans ce premier match de ce TQO.
A tout de suite dans l'after, on se retrouve juste après les
TQO.
RMC, 21h minuit.
L'after foot.
Will your summer sound like this? My train is delayed. Or this?
Evening, everybody.
This.
Assistant required.
Or this. This.
Oh, this!
Make it a summer of Amex and do more with American Express Experiences. With exclusive pre-sale tickets for Somerset House Summer Series, Wimbledon and British Summertime in Hyde Park. Search why Amex. Subject to availability, terms apply.